dans le cadre de cette communication, ce que je voudrais essayer de faire, c'est en fait problématiser, ou du moins essayer de problématiser, les rapports entre mémoire culturelle et imaginaire social, en me penchant sur le rôle joué par le souvenir de la Commune de Paris dans les écrits du Comité Invisible. Alors, comme son nom l'indique, le Comité Invisible est un groupe anonyme de tendance anarchiste qui, depuis 10 ans, a publié 3 textes d'intervention aux éditions La Fabrique, dirigées par Éric Hazan, L'insurrection qui vient en 2007, À nos amis en 2014 et maintenant en 2017. Alors, loin de se cantonner au cercle de la gauche radicale, ces livres, en fait, ont eu un grand retentissement. À nos amis a, par exemple, été traduit en 8 langues et publié simultanément sur 4 continents. Et en plus, au-delà de leur succès de librairie, ces ouvrages ont aussi marqué toute une série de mouvements sociaux, depuis les grèves étudiantes en France en 2009 jusqu'à Nuit debout, cela dans un contexte mondial qui a vu les mouvements d'occupation de places gagner en ampleur. Occupy Wall Street, par exemple. Mais pour commencer, je voudrais préciser que mon regard sur la Commune de Paris est d'abord celui de quelqu'un qui opère au sein des Memory Studies. Et lorsque j'ai commencé à travailler sur les résurgences contemporaines de la Commune, mon point de départ était de considérer celle-ci sous un angle mémoriel et de cibler les usages militants qui étaient faits de cette mémoire. Or, il m'est apparu assez vite que cette approche mémorielle n'était pas entièrement satisfaisante et que les réactualisations de la Commune pouvaient tout aussi bien se laisser penser sous l'angle de l'imaginaire. Alors, cette incertitude quant à la pertinence, si on veut, de l'approche mémorielle est renforcée par une double difficulté. Tout d'abord, la Commune de Paris est un événement éloigné dans le temps. Si je reprends la distinction proposée par Yann Hassmann entre mémoire culturelle et mémoire communicative, on pourrait dire que le soulèvement de Paris en 1871 renvoie à une mémoire culturelle, c'est-à-dire à une mémoire portant sur des faits lointains que nous n'avons pas vécu directement, personnellement, et dont nous avons pris connaissance de manière indirecte par le biais de récits, de films, de livres, etc. Et donc la difficulté réside dans le fait de constituer comme ressort mémoriel de mouvements insurrectionnels contemporains, un événement qui ne ressort pas, on pourrait dire, d'une mémoire vive et qui paraît bien éloigné de l'horizon temporel des générations actuelles. La deuxième difficulté est que la mémoire de la Commune est une mémoire qui se transmet de façon discontinue et qui aujourd'hui n'est pas réellement intégrée dans une dynamique patrimoniale ou dans un grand récit national. Et plus largement, on peut aussi se demander comment conserver à travers le temps le principe actif de la Commune, c'est-à-dire son essence révolutionnaire. On trouve ici la même problématique que celle qui a été identifiée par Sophie Vanisch au sujet de la Révolution française, à savoir comment transmettre, je cite, aux générations suivantes, un héritage sans testament, un héritage difficile à transmettre, à diffuser, à rendre actif. Fin de citation. Ces hésitations au sujet de l'approche mémorielle sont encore renforcées, compliquées, par certains travaux qui inviteraient plutôt à penser la Commune sous l'angle de l'imaginaire. Donc dans l'ouvrage, par exemple, sur la Révolution française, dont je viens de parler, Sophie Vanisch parle d'un imaginaire révolutionnaire, auquel, en fait, on pourrait tout à fait joindre le souvenir de la Commune. Plus directement encore, Christine Ross intitule son dernier ouvrage, non pas la mémoire de la Commune, mais l'imaginaire de la Commune, récusant explicitement toute approche de la Commune qui voudrait se penser comme une mémoire de l'événement ou de son héritage. Bon. Donc face à ces difficultés, mon propos n'est pas tellement d'abandonner la mémoire au profit de l'imaginaire, mais plutôt de dire, tiens, essayons de penser la Commune comme un événement qui permet justement de préciser leur rapport. La Commune, telle qu'elle est réactivée aujourd'hui dans les écrits du Comité Invisible, se trouve à mon sens à l'entrecroisement de l'imaginaire et de la mémoire, et c'est ce jeu de l'un à l'autre que je vais essayer modestement de démêler. Alors pour avancer dans cette direction, je vais commencer par problématiser rapidement les rapports, ou en tout cas certains rapports, entre mémoire et imaginaire. Alors les rapports entre mémoire culturelle et imaginaire social, en fait, ont rarement été abordés de front, et quand ils l'ont été, c'était surtout pour souligner que l'imaginaire social, comme la mémoire collective, ont comme point commun d'être constitué par un ensemble de représentations et d'images partagées collectivement. Cependant, l'imaginaire social est souvent présenté d'une portée plus large, puisqu'il peut inclure, en plus de la mémoire dont les représentations sont tournées vers le passé, d'autres systèmes de représentation ayant une portée sociale comme les mythes, les idéologies, les utopies ou la religion. Bref, Sous cette première perspective, le rapport entre mémoire culturelle collective et imaginaire est surtout pensé sur le mode de l'inclusion. Pourtant, comme le laissait déjà sous-entendre Bonicio Bacchio dans son ouvrage sur les imaginaires sociaux, il y a peut-être lieu de penser les rapports entre mémoire culturelle et imaginaire social de manière plus dynamique, puisqu'on peut supposer, je cite Bacchio, que les imaginaires sociaux interviennent activement dans la mémoire collective, pour laquelle les événements comptent souvent moins que les représentations qu'ils font naître et qui les encadrent. Fin de citation. De manière inverse, on peut aussi penser que la mémoire collective nourrit et alimente des imaginaires sociaux qui ne présentent au final plus qu'un rapport lointain avec les événements historiques dont pourtant ils s'inspirent. Donc par conséquent, ma perspective ne sera pas ici de travailler l'imaginaire social ou la mémoire culturelle en tant qu'ensemble ou sous-ensemble spécifique, mais plutôt de saisir, si on veut, la dynamique imaginative qui va de l'un à l'autre. Autrement dit, il s'agira de comprendre le processus qui conduit les éléments d'une mémoire culturelle à acquérir une portée sociale élargie et à devenir les éléments constituants d'un imaginaire social de plus grande ampleur. Et pour ce faire, on peut prendre en compte le rôle de ce que Patrice Leblanc a proposé d'appeler l'imagination sociale. Celle-ci étant conçue comme étant l'imagination à travers laquelle les sociétés humaines font surgir de nouvelles représentations sociales. Et donc, dans la suite de l'analyse, ce travail de l'imagination sociale sera examiné sous un double aspect. Un aspect de déliement, tout d'abord, où il s'agira de voir comment l'imagination sociale tend à s'écarter progressivement de la mémoire d'un événement donné, positionné dans un espace-temps précis. Un aspect temporel ensuite, où il s'agira de montrer que l'imagination sociale peut être saisie dans une boucle de rétroaction, je pense à Ricoeur, qui consiste à réactiver dans le futur des possibilités qui avaient été empêchées dans le passé. Du coup, mes principales questions pourraient se résumer de la sorte. De quelle manière l'imagination sociale activée par le comité invisible transforme-t-elle un événement de mémoire en un élément constituant d'un imaginaire social? Et l'autre, et en retour, comment cette imagination sociale revêt-elle une dimension temporelle qui la rapproche ou non d'un travail de mémoire? Alors, à travers leurs écrits, les auteurs du comité invisible se revendiquent moins comme les porteurs d'une mémoire révolutionnaire dont il s'agirait de rappeler certains événements dans l'espace public, que comme les porteurs d'un imaginaire social visant à destituer, principe de destitution, l'ancienne société au profit d'une nouvelle. Pour le sociologue Hugo Paletta, le corpus d'idées du comité invisible fonctionne ainsi, je le cite, comme un imaginaire et comme un langage dans lequel se pense et se dit la politique radicale à l'âge du capitalisme néolibéral. Fin de citation. Cependant, cet imaginaire ne s'élance pas du néant, mais prend appui sur une constellation de références révolutionnaires, qu'il s'agisse de la révolte de juin 1848, de la Commune de Paris, de la Révolution française ou des événements de mai 68. Et au sein de cette constellation d'événements, si la Commune brille d'un éclat particulier, ce n'est pas parce qu'elle serait plus originaire ou plus fondatrice qu'un autre événement, mais parce que c'est autour de son souvenir que va se mobiliser le travail de l'imagination sociale entendu sous son premier aspect, c'est-à-dire l'axe du déliement. Et en effet, quand on lit les deux premiers volumes du Comité invisible, c'est-à-dire L'insurrection qui vient et À nos amis, on s'aperçoit que la Commune fait véritablement l'objet d'un processus de substantivation. Comme s'il s'agissait de décoller la Commune historique, si vous voulez, des événements survenus à Paris en 1871, pour en faire une réalité plus abstraite et conceptuelle. Alors cet éloignement du référent premier s'observe tout d'abord par le fait de rappeler que la Commune de Paris ne constitue pas un événement unique, mais qu'elle constitue une occurrence parmi d'autres, dans une tradition communard discontinue, qui compte aussi bien les premières formes d'autogouvernement au Moyen-Âge, les villages d'esclaves marrons aux États-Unis, les communes soviétiques, mai 68, ou Radio Alice à Bologne en 1977. Par conséquent, les auteurs estiment que la Commune désigne moins un événement historique qu'un type de dispositif insurrectionnel pouvant survenir à certaines périodes propices de l'histoire. La Commune se définit alors de manière quasiment abstraite, entre guillemets. Par exemple, dans L'insurrection qui vient, la Commune est définie comme ce qui se passe quand des êtres se trouvent, s'entendent et décident de cheminer ensemble. Dans À nos amis, la Commune désigne, je cite encore, le pacte de se confronter ensemble au monde, ce pacte pouvant se former dans n'importe quelle situation, autour de n'importe quel problème. Fin de citation. Alors cette stratégie de substantivation répond bien sûr à différents objectifs, dont le premier est sans nul doute d'éviter d'être piégé par la teneur factuelle des événements passés. C'est-à-dire que dans une dynamique de lutte, il pourrait être contre-productif de faire l'éloge d'un événement défini de façon trop précise dans le temps, car ce serait alors ouvrir la voie à la commémoration et risquer de maintenir la commune dans des rituels de célébration tournés vers le passé. Plus fondamentalement, la substantivation de la commune répond aussi à une volonté d'internationalisation de la lutte. Même si Paris reste le point focal, le fait de désigner la commune comme le pacte de se confronter ensemble au monde établit un modèle de soulèvement applicable à d'autres villes et à d'autres continents que Paris et l'Europe. Si vous voulez, à la pluralité des communes du temps passé répond la pluralité des mouvements d'occupation qui apparaît dans le temps présent. Et en ce sens, il est frappant de remarquer que les photographies illustrant à nos amis sont tirées d'insurrections ayant eu lieu par exemple à Oaxaca en 2006, à Athènes en 2008, à Poitiers en 2009 ou à Auckland en 2013. Et enfin, la substantivation du mot « commune » permet de rencontrer certaines grandes préoccupations des mouvements antimondialistes. En passant du nom propre au nom commun, la commune entre dans un horizon sémantique qui n'est plus nécessairement lié à des noms de villes ou d'événements, mais à des revendications portées par certains mouvements et penseurs emblématiques de l'anticapitalisme. Ainsi, dans « À nos amis », le chapitre sur la commune comprend-il aussi une réflexion sur le commun et les biens qui doivent rester accessibles à tous, comme l'eau, l'éducation ou la culture. Même s'ils ne sont pas nommément cités, cette réflexion évoque bien sûr des penseurs, comme le philosophe Antonio Negri, qui fondent eux aussi leur pensée critique sur une réappropriation du commun. Donc, pour les auteurs du comité invisible, le procès de substantivation permet d'adapter, si on veut, la commune, l'événement historique, aux réalités des luttes contemporaines. En même temps, cette première analyse, je veux dire ce que je viens de faire maintenant, pour moi, ça reste relativement insatisfaisant dans la mesure où mon analyse présente la constitution de l'imaginaire social comme un processus tendant vers une certaine abstraction, alors qu'on peut supposer que l'imaginaire social qui se met en place à travers les écrits du comité invisible est aussi facteur de mobilisation pour ceux qui y souscrivent. Et donc à rester sur l'axe du déliement, ce que j'ai appelé l'axe du déliement, peut-être qu'on risque de constituer l'imaginaire social de la commune en une sorte d'objet froid et purement cérébral. Bon. Donc c'est en ce point qu'il faut revenir à mon deuxième aspect, qui est la dimension temporelle, et se demander comment le processus de déliement que je viens de mettre en évidence est en quelque sorte coulé dans une temporalité spécifique qui lui permet de relier les combats d'aujourd'hui à ceux de hier. Alors cet aspect mémoriel au sens large me semble évidemment important. Comme l'a rappelé par exemple Ricoeur, Bakshaw, etc., la mémoire constitue bien l'un des éléments garantissant à un groupe de se fédérer autour d'une identité collective et de partager un sentiment de cohésion et d'appartenance. Alors ma question, c'est si l'imaginaire social de la commune, bien qu'il tende vers une certaine abstraction, malgré ça, est-ce qu'il possède tout de même ou pas une dimension mémorielle ? Alors, une manière assez simple de répondre à cette question serait de dire que le déliement vis-à-vis de l'événement, c'est ma première option, n'est jamais total, et que la commune, même transformée en nom commun, projette toujours avec elle l'ombre de l'événement historique qu'elle a été. Autrement dit, le processus de substantivation reste incomplet, et c'est dans cette incomplétude que se nicherait encore la part mémorielle de l'événement. Mais en fait, on peut renverser la perspective et supposer que l'imagination sociale est dotée d'une dimension mémorielle qui inclut en fait le processus de déliement. Il ne s'agit plus de dire que le processus de déliement, si vous voulez, est à l'intérieur d'un processus d'imagination, il s'agit de dire que le processus de déliement est quelque part corrélatif à une action temporelle. Alors ce qui peut faire obstacle à cette réflexion, c'est la compréhension qu'on a habituellement de la mémoire. Celle-ci étant souvent entendue comme une activité qui consiste à nous plonger dans le passé. Or, cette conception de la mémoire est très partielle. Dans un ouvrage important paru en 1987, Remembering, a Phenomenological Study, le philosophe Edward S. Cassay distingue en fait trois modes mémoniques, qui sont le reminding, le reminiscing et le recognizing. Le reminiscing correspond en fait à la conception traditionnelle de la mémoire comme évocation de souvenirs partagés qui se déroulent sur le mode de la conversation. Ce type de mémoire renvoie à une mémoire déclarative basée sur des échanges discursifs. Remarquons que les auteurs du comité invisible s'écartent totalement de cette conception de la mémoire, puisque la commune est vidée, si on veut, de son côté épisodique, et que n'est nullement privilégiée la mise en récit des événements de 1871, comme la prise de l'hôtel de ville à Paris, comme les barricades ou la semaine sanglante de mai. Il n'y a pas de récit qui est constitué autour de ces événements. Plus intéressant, à mon avis, sont le mode du recognizing et du reminding. Pour Cassel, le recognizing désigne le fait de reconnaître dans le présent des éléments en provenance du passé, ou mieux encore, de considérer, je cite Cassel, « an inherence of the past in the present ». Fin de citation. Alors que le reminiscing privilégie les échanges linguistiques, le recognizing est basé sur une activité perceptive, c'est voir quelque chose comme. Et enfin, le reminding est le seul mode mémonique tourné vers le futur. C'est un mode qui rappelle ce qui devra être fait à l'avenir. Et l'exemple le plus simple que je puisse donner, c'est quand on fait un nœud dans un mouchoir. Vous faites un nœud dans un mouchoir pour vous rappeler de faire quelque chose plus tard. Ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Et à mon sens, ce sont ces deux derniers modes, recognizing et reminding, qui sont essentiellement à l'œuvre dans les écrits du comité invisible. Et ces deux modes donnent au travail de l'imagination sociale une inscription temporelle spécifique qui permet de préciser, d'une certaine manière, la boucle de rétroaction dont parlait Paul Ricoeur. Dans les écrits du comité invisible, le travail de l'imagination sociale se trouve lié au temps présent, en fait, par le mode de la reconnaissance. Le processus de substantivation ne trouve sa réelle pertinence que dans la mesure où il se délie suffisamment de l'événement passé pour constituer un modèle d'interprétation pour les insurrections contemporaines. Il s'agit en fait de reconnaître dans tel soulèvement le dispositif insurrectionnel d'événements antérieurs, condensé en ses traits les plus essentiels, mais en même temps incarné de manière vive par les manifestants. Alors pour illustrer cette idée, voici le début du chapitre consacré à la commune dans « À nos amis ». Les gens que j'ai vus place Tahrir étaient des êtres nouveaux qui ne ressemblaient plus en rien à ceux avec qui j'étais quotidiennement en rapport, comme si la révolution avait recréé des Égyptiens d'une qualité supérieure, comme si la révolution qui avait libéré les Égyptiens de la peur les avait également guéris de leurs travers sociaux. La place Tahrir était devenue semblable à la commune de Paris. On avait renversé le pouvoir du régime et à la place, on avait instauré le pouvoir du peuple. Fin de citation. Si j'en reviens au mode du recognizing, on s'aperçoit que ce chapitre, consacré à la commune, s'ouvre bien par une activité perceptive. Il s'agit d'éprouver physiquement, ici au moyen de la vue, le retour du passé dans le présent. Mais pour les auteurs du comité invisible, le modèle de la commune ne permet pas simplement de reconnaître dans tel événement actuel l'ombre d'un soulèvement passé. Ce modèle œuvre plus globalement à relier en une seule séquence différents événements contemporains qui, sans cela, pourraient être perçus comme indépendants les uns des autres. Il s'agit, si on veut, de donner cohérence aux différentes insurrections qui surviennent dans le temps présent. Cet extrait, de nouveau, est très significatif. Ce qui relève de la commune, dans l'occupation de la place Tahrir, de la Puerta del Sol, dans certaines occupations américaines, ou dans les 40 jours inoubliables de la libre république de la Maddalena dans le Val de Suse, c'est de découvrir que l'on peut s'organiser sur une quantité de plans tels que nul ne peut les totaliser. Donc vous voyez bien ici comment la commune agit finalement comme un créateur de séquences et permet de relier différents événements. En même temps, alors c'est un autre aspect je trouve qui est intéressant, en tant que groupe détenteur d'un certain imaginaire social, le comité invisible possède aussi le pouvoir de ne pas reconnaître et de dénier à un événement contemporain sa filiation avec le modèle de la commune. Par exemple, dans le dernier volume maintenant, le comité invisible se montre plutôt amer envers le mouvement Nuit Debout, qui s'est tenu place de la République à Paris à partir de mars 2016. Alors, je vous livre le passage. Bien que rebaptisée place de la commune, la place de la République n'a pu déployer le moindre embryon de ce qu'il y eut de commune dans les mouvements des places en Espagne, en Grèce, sans parler de la place Tahrir, simplement parce que nous n'avions pas la force d'imposer à la police l'occupation effective de la place. Donc à travers ces différents extraits, on comprend en fait que le processus de reconnaissance permet de situer ce qui arrive dans le présent dans une longue chaîne d'événements historiques. Comme l'explique Cassel, la reconnaissance peut opérer sur la base de formes générales, et je le cite, qui sont « shareable or transportable between experiences ». Donc cette idée d'une forme transportable et partageable me paraît essentielle à relier au processus de substantivation dont je parlais tout à l'heure. En soi, le processus de déliement vis-à-vis de la commune permet justement de dégager un modèle d'expérience qui sera ensuite réinvesti sur l'échelle historique, l'idée étant de reconnaître dans le temps présent l'actualisation d'une forme d'expérience qui était déjà survenue à plusieurs reprises dans l'histoire. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que les écrits du comité invisible ne visent pas simplement à reconnaître le passé à l'œuvre dans le présent. Mais ils visent aussi à provoquer un certain type d'action révolutionnaire associée à un véritable projet transformateur de la société. Par exemple, dans Maintenant, paru juste avant les dernières élections présidentielles en France, et c'est pas un hasard, est mis en avant ce qu'ils appellent un principe de destitution, qui fait clairement écho au principe de l'imaginaire constituant de Castoriadis. C'est-à-dire que les auteurs y évoquent la nécessité non pas de prendre le pouvoir en place, mais de s'en dégager pour constituer une société nouvelle. Alors si on se place sur un plan temporel, on pourrait penser que l'imagination sociale est alors tournée vers le devenir et qu'elle se coupe de toute activité mémorielle. Ce serait pourtant méconnaître le rôle que joue la mémoire dans les mouvements de la gauche révolutionnaire, comme l'a montré récemment Enzo Traverso dans son ouvrage « Mélancolie de gauche, mais plutôt à propos du marxisme ». La mémoire des groupes révolutionnaires est toujours intégrée à la lutte et tournée non pas vers le passé, mais vers l'avenir. Il faut apprendre des échecs du passé pour préparer les combats de demain, se rappeler la joie des victoires éphémères pour continuer à se mobiliser dans le futur. Et dans les écrits du comité invisible, la mobilisation du modèle de la commune correspond parfaitement à une telle stratégie. La commune n'est pas seulement passée, n'est pas seulement présente, elle est aussi à venir. La forme d'expérience qu'elle représente est transportable, je reviens sur cette notion, est transportable vers le futur. Et ce transport est d'autant plus nécessaire que cette forme n'a jusqu'ici produit que des actualisations éphémères. Cependant, le mode de la reconnaissance ne suffit pas à expliquer une dynamique mémorielle tournée vers le futur. Si je me base juste sur « recognizing », je n'y arrive pas. Pour que la boucle de la rétroaction soit complète, nous devons adjoindre à ce mode le « reminding », qui d'après Casset est le seul mode mémoriel qui soit tourné vers l'avenir et qui débouche sur la possibilité d'une action à accomplir. Pour Cassel, le reminder pointe toujours vers un événement futur dont le statut était seulement possible au moment où on en a pris note. Il s'agit de se rappeler quelque chose qui devra être fait à l'avenir. Donc ça désigne bien, il y a bien une idée d'action qui devrait être réalisée dans le futur. Alors, de nouveau, je n'ai pas le temps en 20 minutes, mais dans les écrits du comité invisible, ces reminders, donc ces signes qui tendent vers l'avenir, apparaissent de manière flagrante dans les photographies ponctuant les deux derniers volumes. En début de chaque chapitre, on trouve des photos en noir et blanc représentant les slogans et les mots d'ordre qui ont été tracés sur les murs ou affichés sur les banderoles lors des manifestations de ces 10 dernières années. 50 nuances de brie, fuck off Google, today Libya, Tomorrow, Wall Street, et ce qui nous intéresse particulièrement sur le baptistère de Poitiers en 2009, Omnia sunt communia, ce qui veut dire qu'en cas d'extrême nécessité, ce que le monde produit doit être mis en commun. Alors une première approche pourrait laisser penser que ces photographies possèdent juste une fonction testimoniale, destinée à rappeler les mouvements insurrectionnels qui ont eu lieu dans le monde depuis 2006-2007. Cependant, le statut de ces images est double. En tant que photographie, elle témoigne évidemment bien d'une manifestation passée. Mais le mot d'ordre qu'elle contient est une incitation à continuer à agir dans le présent et à se mobiliser dans le futur. Si on veut, il s'agit de redéplier en action le geste révolutionnaire qui s'était cristallisé dans l'écriture du graffiti. La dimension performative du mot d'ordre est donc maintenue, mais cet appel est aussi un rappel, puisqu'il s'élance depuis une manifestation ayant déjà eu lieu. Au-delà même des slogans, on pourrait même avancer que les écrits du comité invisible agissent eux-mêmes comme les reminders des soulèvements passés et des manifestations à venir, la commune constituant alors la pierre d'angle d'une stratégie consistant à rappeler les combats inachevés pour mieux activer la transformation du temps présent. Pour conclure, à travers cette exploration de l'imaginaire social qui se crée autour de la commune, sur la base des écrits du comité invisible, j'ai voulu montrer en fait comment le travail de l'imagination sociale est doublé d'une dimension temporelle, qui lui permet de circuler en passé, présent et futur. Plutôt que de vouloir définir la mémoire culturelle et l'imaginaire social comme des entités spécifiques, j'ai plutôt été intéressé par le double geste constituant, qui consiste d'une part à extraire des significations relativement abstraites de la mémoire collective d'un événement donné, et d'autre part à revêtir ces significations d'une dimension mémorielle spécifique, dialoguant avec le passé, mais sur un registre qui n'est ni celui de la commémoration, ni celui de la remémoration traditionnelle. Alors, le modeste schéma que j'ai essayé de faire, essaye un peu de synthétiser ce que j'ai essayé de vous dire, de schématiser. Je vous remercie.